Ça va bien? Ça va bien. Vraiment heureuse d'être avec vous, hein? Alors, certains, vous savez, nous, ça fait 2 semaines qu'on est revenus de voyage. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Et vous savez, peut-être certains d'entre vous, donc, on a fait un beau grand voyage d'un océan à l'autre, hein, avec notre magnifique Canada. Donc, on est parti plutôt de la Malbaie jusqu'à l'île de Vancouver. Vous allez voir une petite image justement du parcours qu'on a fait, quand même très long, juste pour vous donner une idée de tout le chemin qu'on a parcouru. C'était vraiment un voyage inoubliable, ça on peut le dire. Et juste après, on voit à l'écran quelques photos aussi de paysages magnifiques. On était tellement reconnaissants de voir ce que Dieu avait fait finalement avec la belle création. Donc, on voit des beaux fleuves turquoises, des belles chutes, c'est magnifique. Par contre, ce que vous ne voyez pas à l'écran sur ces photos-là, c'est les 10 000 km parcourus, les 114 heures sans air climatisé en passant, à moins d'un mètre d'un autre être humain, je ne sais pas qui, mais les dizaines de nuits aussi à monter, démonter la tente, etc. Combien d'entre vous, vous savez que les vacances, c'est bien beau, mais aussi, ça demande quand même pas mal de travail, hein? Beaucoup de préparation, d'organisation, même un petit voyage, ça demande du travail, de l'argent aussi. Est-ce que vous vous rappelez quand on était des enfants puis que nos parents nous disaient qu'on partait en voyage? C'était pas compliqué, hein? C'était si simple, hein? On disait, Élise, va faire ta valise, on va dans la chambre, on prend quelques vêtements, notre brosse à dents. On a un petit 10 $ de budget pour s'acheter quelques surprises. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit en arrière de la voiture et on se laisse conduire tranquillement. On n'a aucune idée d'où on va, mais on sait que ça va être le fun. On sait qu'on va découvrir des nouvelles choses, qu'on va avoir un endroit où dormir, qu'on va avoir un endroit où on va manger un bon repas. Et moi, ça m'arrive souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi parfois, de vouloir être un petit enfant. M'asseoir en arrière de la voiture et me laisser conduire. Et pour vous le prouver, cette semaine, j'ai ressorti mes journaux dans lesquels j'écris mes pensées, etc. Et j'ai trouvé ça le 16 août 2015. Je me suis dit, il faut vraiment que j'inclue ça dans ma prédication. Mon Dieu, j'aimerais être un enfant dans toute sa candeur, son innocence et sa non-responsabilité. Est-ce que je suis la seule à penser ça le lundi matin? Non, hein? Il y en a aussi lundi matin. Il me semble qu'on a envie de s'enfuir au Mexique parfois ou justement d'être un enfant. Et plus je parle avec des personnes plus âgées, plus je me rends compte que notre cœur, en fait, notre cœur, notre petit cœur, il vieillit pas tant que ça. On dirait qu'il s'arrête autour de comme 25 ans peut-être. À chaque fois que je pose la question à, je sais pas moi, quelqu'un de 50 ans et plus, ils me disent qu'ils se sentent des années plus jeunes dans leur cœur. Et je suis sûre que vous êtes comme ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que Jésus nous dit justement de ressembler à des petits-enfants. Il nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Comme un enfant ». Notre texte central va se trouver dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, versets 13 à 16, où Jésus va se trouver entouré d'une foule de personnes. Et parmi eux, il y a des parents qui apportent leur enfant auprès de Jésus. Et je suis certain qu'on aurait fait ça aussi. On demande à Jésus de prier pour nos enfants. En plus, c'est une période où il y avait encore plus de... le taux de mortalité infantile était encore plus élevé. Donc, c'est vraiment normal qu'on voit ce genre de scène-là. Donc, on lit le passage ensemble. Des gens lui emmenaient des enfants pour qu'il les touche de la main, pour les bénir. Mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. On va prier ensemble que l'Esprit vienne nous parler ce matin. Seigneur, on a besoin de toi, on veut se faire des petits-enfants ce matin, on veut être à l'écoute de ton esprit, on veut se faire humble devant toi pour que tu puisses nous parler et nous dire ce que tu veux nous dire ce matin. Prends toute la place, Seigneur. Amen. Comme on l'a lu, Jésus va dire à ses disciples et à la foule que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Pourtant, vous allez lire aussi certains passages dans les lettres de Paul, par exemple, qui nous encouragent à ne pas être un enfant. On dirait qu'il y a comme une contradiction. On lit, le passage n'est pas à l'écran. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Paul ici nous dit, OK, à un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut maturer un peu. Et il va continuer, il va dire, « Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. » En gros, même Paul, il dit, il y a des endroits où tu dois être comme un enfant, mais d'autres où il faut que tu vieillisses. Il y a des caractéristiques négatives aussi aux attitudes des enfants. Un enfant, ça peut être immature, déraisonnable, capricieux, dur de comprendre. Il y en a peut-être même qui se reconnaissent ici, là-dedans. Et évidemment, c'est pas de ça que Jésus parle ici. Il veut pas qu'on imite ces attitudes-là, évidemment. Donc, on va voir aujourd'hui c'est quoi les trois caractéristiques. C'est quoi être un enfant? C'est quoi la foi d'un enfant? On va voir trois caractéristiques aujourd'hui d'attitude positive d'un enfant. Mais avant de souligner ça, avant de passer à ça, je veux souligner deux choses pour vous par rapport à notre passage qu'on a vu tout à l'heure dans Marc. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Okay, fait que premièrement, on voit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants ou appartient à ceux qui sont comme eux. Ça s'adresse en fait aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Le royaume appartient à eux. Ça veut dire que même si on est chrétien depuis plusieurs années, on est toujours appelé à être comme un enfant devant notre papa. Qui a des enfants ici? Levez la main qui a des enfants. Qui a des enfants? Qui a des enfants? Bien, plus que ça. Qui a des enfants en ce moment? Qui a des enfants? Des enfants. OK? Bon, ça marche pas. Vous gâchez toute mon illustration. Vous étiez censés toutes lever la main. En fait, bien, la grande majorité, parce que, en fait, la garderie en bas est pas pleine. Si tous ceux qui ont levé la main aujourd'hui avaient apporté leurs petits-enfants, bien, ça serait plein, là. Non, vous avez levé la main, pas parce que vous aviez des petits-enfants ou des bébés. Un enfant reste un enfant toute votre vie, et vous le savez, vous aidez encore vos enfants, je n'en doute pas. En tout cas, moi, mes parents, ils m'aident encore. Donc, quelle que soit notre année d'expérience, c'est un principe important, somme comme croyant. Quelle que soit notre année d'expérience, notre âge, notre statut, notre implication, notre identité première, c'est d'être un enfant de Dieu, en cultivant justement les trois caractéristiques qu'on va voir. Et deuxièmement, par rapport au passage qu'on a vu, on comprend que celui qui accueille le royaume de Dieu comme un enfant va y entrer. En d'autres termes, là, si tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, il va falloir, à un moment donné ou un autre, que tu décides de te faire comme un enfant, d'avoir l'attitude d'un enfant pour entrer dans le royaume. Et on va voir concrètement ça ressemble à quoi. Êtes-vous prêts? On va plonger dans nos textes pour voir nos belles caractéristiques. En fait, on va voir autour de notre texte qu'on va voir des personnes. En fait, Jésus est sur le chemin pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Il part de la région de Pérée à l'est du Jourdain. Et puis, il rencontre plusieurs personnes. Et ces personnes-là vont devenir pour nous des exemples à suivre ou des exemples à ne pas suivre. OK? On va commencer avec nos chers disciples qui nous offrent un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Cet épisode-là se trouve dans Marc 9 ou Matthieu 18. C'est le verset parallèle. On le lit ensemble. Les disciples vinrent demander à Jésus. « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et là, Jésus appelle un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. » Avez-vous remarqué, on dirait quasiment la même conversation qu'ils ont eu quelque temps après, en quelques semaines d'intervalle, le même exemple que Jésus va utiliser. Voyez-vous le contraste entre les disciples et les enfants? Les disciples demandent qui est le plus grand. Ça, c'est la préoccupation des disciples. Et devant leur orgueil, Jésus va leur présenter un enfant humble. Et ça continue. Après ces deux exemples-là où Jésus place un enfant devant eux pour leur dire à quoi ressembler, on lit ceci en Marc 10, 35. On continue sur notre chemin. Les deux fils de Zébédée, donc encore une fois deux disciples, Jacques et Jean, viennent lui dire, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ça, c'est toujours une belle approche gagnante avec Jésus. Hein? « Jésus, fais donc ce que je te dis de faire, finalement. » Et Jésus répond, « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Donne-nous, lui dirent-il, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Et devant cette demande-là, Jésus, encore une fois, répète le même principe. Alors que Jacques et Jean veulent savoir, finalement, la même question, qui est le plus grand? Jésus va dire, « Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, ou sera un enfant. » Okay, on a tous compris que la première caractéristique d'un enfant que Jésus demande d'imiter, c'est son humilité. C'est pour ça que les disciples ont rabroué, hein, vous vous rappelez, ils ont rabroué les parents à arrêter là, de déranger Jésus avec les enfants. Comme s'ils disaient, Jésus a d'autres choses de plus importantes à s'occuper. Ou les enfants, vous êtes indignes de vous approcher de Jésus. Et Jésus non seulement montre l'importance qu'il accorde aux personnes qui paraissent petites ici sur terre, mais en plus il dit, il faut que vous ressembliez à ça. Et je sais pas pour vous, je me dis que si Jésus a choisi ses 12 disciples-là pour accomplir sa mission, pour l'accompagner sur sa mission, il y a des bonnes chances que nous aussi on fasse preuve d'orgueil parfois, hein? De vouloir savoir c'est qui le plus grand. Qui est le plus grand? Est-ce que c'est moi ou c'est lui? Comme chrétien, être humble, c'est arrêter de perdre du temps à se poser cette question-là. Qui est le plus grand? Arrête de te comparer avec les autres sur les réseaux sociaux. Qui est la plus belle? Qui est le plus intelligent? Qui a la plus belle famille? Qui a les meilleurs arguments? Surtout dans ces temps-là. Arrête de te poser aussi la question à l'Église, hein, qui est le plus grand? Est-ce que c'est moi qui est le plus grand? On dirait que c'est toujours moi qui fais tout dans cette Église, les autres sont tellement paresseux. Ou est-ce que c'est toi qui est le plus grand? Oh, il s'implique tellement dans tellement de départements, en plus toujours avec le plus beau des sourires, je ne serais jamais capable de faire ça. Puis moi, je fais juste placer des chaises en plus, ça ne sert à rien. Perdons pas notre temps à nous poser cette question-là. Qui est le plus grand dans le royaume? Rappelons-nous qu'on est tous des enfants de Dieu. En fait, on est tous petits. Le plus grand, c'est Jésus. Point final. Et on fait tout pour lui rendre gloire. Amen. Amen. Libérons-nous pour vrai de la comparaison et portons nos regards sur le plus important, et c'est Jésus. Maintenant, c'est quoi l'humilité pour une personne qui voudrait entrer, qui voudrait accueillir le royaume de Dieu? Et la question ici est la même, en fait. Qui est le plus grand? Mais elle n'implique pas les mêmes personnes. Qui est le plus grand, moi ou Dieu? Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, sache qu'il y a une guerre de pouvoir entre toi et Dieu et que tu ne pourras jamais entrer dans le royaume tant que tu n'auras pas laissé Dieu gagner dans ton cœur. En plus, à l'époque où chacun veut créer sur mesure sa propre identité, s'autodéfinir, c'est au moment seulement où on va réaliser, où tu vas réaliser ta place dans la création, que tu vas pouvoir entrer dans le royaume. Au moment où tu réalises que tu as été créé par Dieu, que c'est lui qui te définit et qui définit le monde. Et un homme, j'aurais pas aimé être à sa place, un homme a déjà fait l'expérience de se trouver un peu arrogant devant Dieu et de se retrouver par la suite devant lui. C'est Job, en fait. À cette question-là, qui est le plus grand, moi ou Dieu? Bien, Dieu te pose ces questions-là à ton tour, comme il le fait avec Job dans un langage poétique. C'est super beau. Dieu dit ceci. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Merci Dieu d'avoir inventé le sarcasme, amen, que j'utilise régulièrement. Quand même, je me dis, mon Dieu, il est arrogant à la limite, Dieu. Il a le droit. Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ses bases reposent-elles? Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages, son habit et de l'obscurité ses langes. quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, quand j'ai dit « Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Wow! Et ça continue comme ça tout le reste du chapitre. Et Job, qu'est-ce qu'il fait devant ce discours-là? Il choisit de s'humilier comme un petit enfant. Voici sa réponse. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Faisons preuve d'humilité en reconnaissant la place de Dieu dans le monde et dans notre vie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un beau paradoxe avec ça. Devant ce Dieu majestueux, puissant créateur de l'univers, rappelle-toi en même temps l'attitude de Jésus, pleine de tendresse. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Dieu, ce grand Dieu majestueux, t'accueille dans ses bras grands ouverts si tu choisis l'humilité. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'expérience un jour de juste tout redonner à Jésus et de voir, de se sentir accueilli par lui? Amen. On vient de voir que Jésus, donc, veut qu'on ressemble à des enfants. Et la première caractéristique qu'on a vue, c'est l'humilité. La deuxième caractéristique, c'est en lien avec la rencontre que Jésus va faire tout de suite après avoir justement parlé des enfants. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Ah, il a l'air de faire preuve d'humilité. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour entrer dans le royaume? » Et Jésus va lui répondre en lui citant les 10 commandements. Et l'homme va dire, « Ah oui, j'accomplis la loi depuis que je suis jeune, j'ai fait les 10 commandements. » Et c'est là que Jésus va dire, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Et l'homme, voici ce qu'il répond, « Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Il est très riche. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Avez-vous remarqué le contraste? Jésus vient juste de dire que le royaume appartenait à ceux qui sont comme des enfants, et là, il vient de dire que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Caractéristique numéro un de la foi d'un enfant, l'humilité. Numéro deux, la pauvreté. L'homme riche n'a pas pu entrer dans le royaume, pas parce qu'il ne faisait pas des bonnes actions, mais parce qu'il ne voulait pas renoncer à ses biens pour Jésus, en fait. Il était prêt à suivre les commandements, mais pas à abandonner cette chose-là, ses richesses. Et ça, Jésus le savait. C'est pour ça qu'il dit, « Il te manque une chose. » Jésus savait que ça l'empêchait d'accueillir le royaume comme un enfant. Et je me suis informée un peu, et le salaire moyen d'un charlevoisien est de 33 347 $, ce qui, si vous faites ça autour de ça, ça nous classe parmi les 30% les plus aisés de la planète, quand même. Et la majorité d'entre nous, on possède une voiture, peut-être certains une maison, un ordinateur, portable, vêtements, vous voyez où je veux en venir. En d'autres termes, l'homme riche que Jésus a rencontré, ça pourrait être nous, en fait, ce matin, parce qu'on est quand même pas mal riches sur le plan planétaire. Mais ça se peut aussi que ce soit quelque chose d'autre que tu ne veuilles pas redonner à Jésus, qui te retienne d'entrer dans le royaume, ou qui t'empêche aussi de progresser en tant qu'enfant de Dieu. Et Jésus connaît la chose à laquelle il veut que tu renonces. Dans ton cœur, tu dois être prêt à renoncer à tout pour Jésus. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes ce point-là, ce principe-là. Dans ton cœur, tu dois être prêt à renoncer, mais ça ne veut pas dire qu'il veut que tu y renonces dans ta vie. Okay? Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne un peu mieux. Jésus me dit que je dois renoncer à la drogue. Non, je ne suis pas en train de vous dire que je suis droguée ce matin. Non, c'est un exemple. Okay? Première étape, je lui remets cette dépendance-là dans mon cœur. Seigneur, je ne veux plus de ça. Je te redonne cette dépendance-là, j'en veux plus dans ma vie. Mais deuxième étape, je dois arrêter et renoncer à la drogue dans ma vie. Demander de l'aide concrètes pour y arriver. Deuxième exemple, Jésus nous demande de l'aimer plus que tout. Dans mon cœur, je dois être capable de dire que j'aime Dieu plus que mon mari, par exemple. Et que je serais prête à renoncer à mon mari pour Dieu. Je ne vous annonce pas non plus aujourd'hui que je vais divorcer, non plus. Donc, Dieu ne me demande pas pour autant de divorcer. Vous le savez très bien, ça n'aurait aucun sens. Mais dans un cas comme dans l'autre, Jésus sait à quoi on est attaché. Ce à quoi on ne serait pas prêt à renoncer pour lui s'il nous le demandait. On doit être prêt à tout abandonner pour suivre Jésus, tout, comme un enfant pauvre, sans ressources. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez écouté les séries où le Canadien a quand même allé jusqu'en finale de la Coupe? Certains? Oui, c'est quand même un bel exploit. Est-ce que vous avez déjà remarqué la concentration des joueurs avant ces matchs-là, surtout les matchs importants? C'est incroyable. Imaginez la pression. Tu n'as pas le choix là, de focaliser, de vraiment te concentrer. Et en fait, les athlètes de haut niveau utilisent une technique qu'on appelle la visualisation. Ils se mettent à imaginer dans leur tête soit des mouvements précis pour être capable de les faire, des matchs, donc des situations de match, etc. Et moi, j'ai même utilisé cette technique-là, non pas dans le sport, je suis vraiment pas une sportive en passant, mais quand je prenais des cours de piano, en fait, quand j'étais jeune. Et puis, dans le fond, je pratiquais mon morceau dans ma tête et honnêtement, ça faisait comme si je le pratiquais pour vrai. C'est vraiment puissant. Ce matin, j'aimerais ça qu'on fasse un petit exercice de visualisation. Okay? Que chacun d'entre nous ici ou si quelqu'un écoute le message en ligne, on puisse visualiser les domaines de nos vies. Si tu es croyant, qu'est-ce qui te lie encore pour progresser dans ta foi? Et si tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans le royaume ce matin? À quoi est-ce que tu n'es pas prêt à renoncer pour suivre Jésus? Visualise les domaines de ta vie, OK? On va prendre un temps aussi de louange à la fin où on va pouvoir le faire, où tu peux le faire cette semaine aussi. Les domaines de ta vie, ta famille, ton emploi, tes richesses, ta liberté, tes dépendances, tes priorités, tes distractions, ta réputation, ta personnalité, ton orgueil, ton temps. Jésus connaît la chose ou les choses qui te manquent pour être près de lui. Et je suis convaincue que son esprit peut le dire à ton cœur, comme il le fait à l'homme riche. Et visualise si Jésus me demandait de renoncer, par exemple, à cette relation-là, est-ce que je le ferais? Si Jésus me demandait de vendre ma maison, est-ce que je le ferais? Et ça ne veut pas dire que Jésus va te demander ça. Mais serais-tu prêt à le faire? Dieu connaît ton cœur et il sait la réponse. Et si la réponse est non, je t'invite à renoncer à tout pour Jésus ce matin. Renonce-y dans ton cœur. Visualise-toi même, pourquoi pas, remettre cette chose-là à Jésus. Et si tu dois renoncer à un péché, prends la décision par la suite d'y renoncer aussi dans ta vie. C'est important d'aller à la deuxième étape en faisant des gestes concrets pour t'en débarrasser. Et voici ce que Jésus dit à l'homme riche et qui nous dit à nous ce matin. « Deviens pauvre comme un enfant, viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. » Est-ce qu'il y en a qui veulent être riches au ciel ce matin? Amen! Là où ça compte vraiment, il nous dit que si on veut être grand dans le royaume, il faut être petit. Et il nous dit en plus que si on veut être riche dans le royaume, il faut être pauvre, spirituellement d'abord et avant tout. Troisième et dernière caractéristique. On est prêt? On lâche pas? C'est la suite du chapitre 10 dans l'Évangile de Marc. On a vraiment suivi Jésus dans son parcours. Et cette fois-ci, ça nous offre pas un contre-exemple de la foi d'un enfant comme on a vu avec les disciples qui faisaient preuve d'orgueil et comme on a vu aussi avec l'homme riche qui n'était pas prêt à renoncer à tout pour Dieu. Au contraire, ici, on a l'exemple parfait de l'attitude que Jésus voudrait qu'on ait. C'est comme la cerise sur le sundae pour qu'on comprenne un peu à la fin de ce passage-là, à la fin de ce chapitre-là. Vraiment, c'est la cerise pour qu'on comprenne tout l'enseignement que Jésus voulait qu'on comprenne par rapport à l'attitude d'un enfant. Le chapitre se termine avec l'histoire de la guérison d'un mendiant aveugle. Déjà, un mendiant, on est dans la pauvreté, l'humilité. C'est Bartimée, alors que Jésus et les disciples reprennent leur chemin vers Jérusalem, ils arrivent à Jéricho. Et portez attention aux éléments qui sont semblables avec notre passage du début. Okay, on va lire le texte. Comme il sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi! » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, exactement comme les petits-enfants que les disciples ont rabroué. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Rappelez-vous, c'est exactement la question que Jacques et Jean, nos deux disciples, ont demandé à Jésus. Que Jésus a demandé à Jacques et Jean, pardon. Les deux disciples qui voulaient savoir qui allait être à gauche ou à droite dans le royaume. Hein? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il pose la même question à notre ami ici. Rabouni, qui veut dire bon maître, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Ta foi t'a sauvé, ça veut dire que Bartimée avait exactement ce que Jésus souhaitait voir dans le cœur des gens. Une foi remplie d'humilité, de pauvreté, et troisièmement, de dépendance, comme un enfant. Un enfant, encore plus un bébé, hein, est complètement dépendant de ses parents. Il est dépendant de ses parents pour survivre même, pour être nourri, pour savoir où aller, pour savoir quoi faire. Et rappelez-vous que Bartimée était aveugle. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un plus bel exemple de dépendance? Imaginez-vous, pour de vrai, là, être aveugle, rien voir, être dans le noir total, à quel point on peut devenir dépendant peut-être de quelqu'un, de notre canne, de notre chien guide. Et le cri de Bartimée montre cette attitude-là de dépendance. Jésus, aie compassion de moi. En d'autres termes, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens à mon secours. Et c'est la seule façon de pouvoir entrer dans le royaume, de devenir son enfant, en reconnaissant ton besoin de lui. Je t'invite, si tu ne l'as jamais fait, à réaliser ton besoin de Dieu, à réaliser que sans Dieu, la vie n'a pas de sens, que c'est lui le Créateur et qui a fait tout pour pouvoir rétablir notre relation brisée par nos erreurs et notre orgueil. Je t'invite à crier à Jésus comme Bartimée, « Aie compassion de moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un sauveur. » Ça se peut très bien aussi que tu sois chrétien depuis quelques temps ou plusieurs années, mais que tu aies oublié de dépendre de Dieu comme un enfant. Rappelez-vous, c'est notre première identité. Comme un aveugle qui a besoin d'être guidé. Accepte ta condition d'enfant dans un voyage, comme dans un voyage où tu dois être le simple passager en arrière et laisser Dieu diriger la chose. Dis-lui à chaque jour, « Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer. Je ne suis pas capable d'agir de la bonne façon. J'ai besoin de toi. » En me préparant, je regardais quelques vidéos sur la façon dont les chiens guides étaient formés hein, pour accompagner les non-voyants. Et on va regarder un petit extrait d'une vidéo, justement, qui montre comment les chiens sont formés dans le métro pour accompagner les gens dans le métro. Donc, on va regarder ça dure une petite minute.
Mezzo arrive sur la zone la plus périlleuse, le quai. En cas de danger, il doit adopter un comportement très inhabituel pour lui.
On est bien d'accord que c'est vous qui lui donnez les ordres, donc si la personne malvoyante lui dit d'avancer dans le vide...
Il ne doit pas y aller. C'est le seul cas de désobéissance autorisée. C'est un exercice qu'il est en train de travailler actuellement, donc on va voir comment il va le retransmettre aujourd'hui. Mezzo, va devant. Devant. Mezzo, devant. Allez, va devant. Va devant. Non, mezzo, devant. Donc on voit déjà qu'il a compris qu'il ne devait pas s'approcher.
Il
va
biaise.
Devant. Allez, Zozo, va devant. Allez, devant. Non, devant. Aïe, devant. Va devant. Donc là, il est venu se coucher devant moi. Et il résiste, voilà, il résiste quand même pour me dire non. Alors, normalement, il restera à côté de moi et il se couchera plus vite. Mais là, déjà, il a bien compris le principe. Puis on va voir, quand je lui demande de repartir, ce qu'il va faire. Mezzo, va devant, va. Et on voit que tout de suite...
Il vous emmène ailleurs.
C'est de me ramener loin du vide.
Ça, c'est incroyable parce que dans sa tête, alors qu'il a l'habitude de vous obéir en permanence, il est capable de se dire, là, ça va trop loin, c'est trop dangereux, je bloque.
Bah, je lui ai appris que dans ce contexte, le vide, là, quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'en approcher.
Dis donc, t'es un champion, toi. Hein, c'est magnifique ce qu'on arrive à faire.
Eh oui, un bibou, t'es le meilleur. Bon, oui.
Incroyable quand même, hein? C'est beau. Moi, je me suis rendu compte après que j'avais beaucoup d'illustrations avec des animaux et des chiens. Okay, je vais passer à autre chose à un moment donné. Non, mais c'est fou quand même. Mais est-ce qu'on n'agit pas parfois comme ça avec Dieu? On a le choix de faire confiance à notre guide qui sait, lui, ce qu'il y a devant nous. Imaginez-vous aveugle. Ou de dire à Dieu, « Allez, avance dans cette direction-là, je sais moi où aller. Au pire, là, je vais prendre les devants, Seigneur, si ça bouge pas assez vite à mon goût. Hein? » Ou encore de dire comme Jacques et Jean, justement, « Fais donc ce qu'on te dit de faire, Jésus. » On doit apprendre à toujours dépendre de Dieu à chaque jour, à lui faire confiance pour ce qu'on voit pas devant nous. On n'a pas le choix, de toute façon, on voit pas ce qu'il y a devant nous. On sait pas de quoi demain va être fait. À lui faire confiance. À lui remettre notre avenir, à faire confiance à Dieu quand il nous dit d'arrêter, quand il répond non à une prière, comme le chien qui s'est braqué devant la fille, hein, mais pour la protéger. Soyons des aveugles spirituels qui font confiance à leur maître, des enfants qui dépendent de leur papa. Amen. Il y en a qui veulent avoir cette attitude-là face à Dieu, notre grand Dieu créateur. Mais ce matin, je nous invite vraiment à nous faire humbles, pauvres spirituellement, comme un enfant pour dépendre de Dieu. Et n'oubliez pas, pendant le temps de louange, je vais inviter les musiciens à venir. Pendant le temps de louange, prenez ce temps-là ou cette semaine, si tu le désires, pour visualiser les domaines de ta vie et renonce aux choses qui t'éloignent de Dieu, qui t'empêchent de progresser ou qui t'empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Décide de suivre Jésus aujourd'hui. On peut se lever ensemble. On va chanter un dernier chant de consécration. Le chant aussi qu'on a chanté, Dieu de gloire, ça incarne tellement notre message ici. On se rend humble et pauvre comme des petits-enfants devant notre Dieu qui est incroyable, ce grand Dieu créateur. Seigneur, on vient devant toi en réalisant notre besoin de toi, en réalisant ta grandeur, mon Dieu. T'es magnifique. On veut avoir un cœur d'un enfant. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on sait que tu vas nous accueillir à bras grands ouverts. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont pas eu un papa à la hauteur, un papa terrestre à la hauteur. Seigneur, je te prie de venir délivrer, de venir briser, Seigneur, toutes les blessures, de venir guérir les blessures, Seigneur, qui ont pu prendre place ici sur terre avec un papa terrestre, Seigneur. Viens nous montrer ta réelle identité de qui tu es comme bon papa, Seigneur. Un papa qui est tellement grand, un Dieu qui a créé l'univers, mais qu'en même temps, il vient jusqu'à nous puis qui prend les enfants dans ses bras, Seigneur. On veut te remettre toutes choses, Seigneur. Sois glorifié ce matin. On s'approche de toi, humble, Seigneur. On a besoin de toi.